Les Années-Lumière, édition du 16 mai 2010. « 78e congrès de l'ACFAS à Montréal, la science astique sa boule de cristal pour découvrir aujourd'hui ce que sera demain. » Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, une édition spéciale enregistrée jeudi midi devant le public de l'ACFAS, dont le congrès se tenait cette année sur le campus de l'Université de Montréal. L'ACFAS, comme son nom ne l'indique pas, c'est l'Association francophone pour le savoir. Alors, comme nous en avons l'habitude depuis pas mal d'années, je dirais, nous consacrons toute notre émission à ce congrès, à cette fête de la science en français, comme on a coutume de le dire. Et c'est tout à fait justifié, croyez-moi, parce que nous avons l'embarras du choix cette année. Plus de 6000 chercheurs de toutes les disciplines ont participé à plus de 200 colloques et ils ont donné ou écouté 3500 communications. On a fait le choix. Et notre premier invité sera le président de l'ACFAS, Pierre Noreau, qui va nous dire entre autres que la science en français, ça ne se fait pas seulement dans la francophonie. Et nous aurons ensuite Mathieu Gobeil, notre stagiaire de la bourse Fernand Seguin, la première de vos ACFASiennes capsules.
Oui, on va parler de jurons, de cabanons, de navigation et de commotion, Yannick.
Nous aurons ensuite le premier de vos sujets, Sophie-André Blondin.
Plongeons tout de suite dans le plaisir de manger, comment interpréter nos traditions alimentaires à travers les lunettes de l'histoire et de l'anthropologie. Puis en deuxième heure, le laser fête aujourd'hui dimanche ses 50 ans. Vive le laser, celui d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et
bien sûr. Alors le premier de vos sujets, Chantal Srivastava, vous allez recevoir une invitée de marque.
Corinne Lepage, Yannick, qui est députée au Parlement européen, ancienne ministre de l'Environnement en France, et qui nous parlera de l'influence de la science en politique. Et dans un autre ordre d'idées, je vous parlerai également de la ruse et de la triche. Ah. Colloque de 3 jours sur ce grand thème. Quelle est la différence entre les deux?
3 jours là-dessus.
C'est ce que nous verrons.
Chantal, donc Srivastava en première, en deuxième heure. Et pour terminer la première heure, Gaëlle, Lucia, Berdou, vous serez en pleine et je dirais humainement très pénible actualité.
Et oui, il a été question de risques naturels à ce congrès, notamment de glissements de terrain. Et évidemment, ce qui s'est passé en Montérégie n'a pas échappé aux chercheurs. Et puis en deuxième heure, je vous parlerai de l'industrie minière, de ses rejets, des bactéries mangeuses de rejets miniers.
Tout ça dans une spéciale ACFAS où il sera aussi question avec mes invités en deuxième heure de conflits d'intérêts en recherche. Et vous verrez, il n'y a pas que dans le biopharmaceutique qu'on trouve ou qu'on risque des conflits. Et puis aussi, il sera question dans cette édition de microbes, mais sur un ton et dans une forme vraiment, vraiment inusitée. Alors on commence donc avec Pierre Noreau. Donc c'est le 78e congrès de l'ACFAS, c'est votre 3e congrès à titre de président. Il fut un temps, je me souviens, où les présidents faisaient tout juste un an, ils avaient des mandats d'un an. Pierre Noreau, je commencerai par la question qui tue. Vous êtes-vous auto-préclamé président à vie de cette vénérable institution?
Ah, ça serait trop simple. Non, d'ailleurs, il ne faut pas faire ça toute sa vie parce qu'il faut voir ce que ça exige du point de vue de la disponibilité. Il faut réfléchir à la recherche dans d'autres termes que les termes qu'on poursuit ou qu'on utilise quand on est soi-même chercheur. Et c'est vrai qu'on a changé les dispositions de nos statuts, de nos règlements internes, de manière à ce que la présidence puisse se poursuivre sur une période de 2 ans qui est peut-être renouvelable une seconde fois, de manière à stabiliser, en fait.
Donc, pas de coup d'État en vue.
Non.
Alors, vous êtes prof de droit à l'Université de Montréal, Pierre. On va d'abord parler de ce congrès-ci, le 78e du genre. J'ai dit découvrir aujourd'hui ce que sera demain. J'ai parlé de boule de cristal. C'est pas très scientifique, la boule de cristal. Qu'est-ce que vous avez voulu faire et dire avec ce thème-là cette année?
C'est le thème qui est proposé par l'Université de Montréal, HEC oui. Polytechnique, qui reçoivent le congrès de l'ACFAS cette année. Mais au fond, je pense que ça me permet de voir en quoi l'activité scientifique est une activité à très long terme, qu'en fait, on travaille aujourd'hui sur des questions qu'on ne se pose pas toujours dans l'espace public et on cherche des solutions à des problèmes que parfois on ne voit pas encore, mais que les scientifiques traquent et sur lesquels ils travaillent. Et c'est dans cette perspective-là, voir à long terme le développement de la connaissance comme le développement de la recherche.
Et quand on dit, on est dans une assemblée de chercheurs, quand on parle d'avenir de la recherche, on parle évidemment d'avenir du financement, d'avenir de la situation de la recherche. Depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années, les gouvernements ont pris le virage de politique vers des politiques de recherche orientées vers les applications de la recherche, vers des partenariats avec le privé, avec l'industrie. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur la recherche ces 15 ans à peu près de nouvelles, de réorientation de la recherche?
Bon, ça a donné des résultats d'un côté intéressant, ça crée beaucoup d'inquiétudes de l'autre. C'est certain que ça a conduit à multiplier les occasions de recherche appliquée, le financement pour la recherche appliquée. Et ça, je pense qu'on ne peut pas, dans une perspective où on essaie de rapprocher la science et la société, c'est positif. Dans une autre perspective, comme on sait que les calendriers de la recherche sont pas ceux du monde politique, ça peut conduire en fait à développer des projets qui ont moins d'envergure. Et c'est ce que craint en général le milieu de la recherche, c'est d'être obligé d'essayer de trouver trop rapidement des solutions à des problèmes immédiats, alors que le calendrier de la recherche, c'est sur des années beaucoup plus longues que les années d'un mandat de gouvernement. Un gouvernement, il est élu pour 4 ans quand il n'est pas trop minoritaire. Et puis finalement, les projets, les programmes de recherche, des fois, c'est sur 10 ou 15 ans.
Et puis, tout récemment, le gouvernement du Québec a annoncé la fusion de ces 3 grands organismes subventionnaires en sciences de la santé, en sciences naturelles, en sciences humaines. Il y a beaucoup de personnes qui se sont inquiétées de ça, vous, de votre côté?
Ben, on parle toujours de la recherche comme d'un milieu unifié, mais on sait très bien qu'à l'intérieur du milieu scientifique, il y a des grandes cultures. Et puis, bon, le domaine de la santé, le domaine des sciences de la nature et de la technologie, le domaine des sciences sociales et des sciences humaines, ce sont 3 domaines différents. Et la crainte, en fait, c'est que la culture propre à chacun de ces domaines-là soit plus ou moins noyée dans une conception un peu éthérée de ce qu'est la recherche. Et je pense que tout se jouera là. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais c'est très important que la direction de chacun des fonds actuels garde une certaine autonomie de manière à ce qu'on évite aussi la foire d'empoigne sur les budgets entre les différents champs de recherche.
Alors, Pierre Neuroux, vous êtes président de l'ACFAS, mais vous avez une autre casquette aussi. Vous êtes directeur du bureau des Amériques de l'AUF, l'Association des universités francophones.
L'Agence
des universités francophones. Vous avez organisé jeudi un colloque sur le thème « Université et développement ». Est-ce que c'est pour relancer cette assez vieille idée de la science au service du développement, les chercheurs qui vont aider les pays du Sud à se développer? Est-ce que c'est ça?
Non, je pense que c'est abordé vraiment dans le sens le plus général de l'internationalisation. C'est vrai que très longtemps, lorsque les universités du Sud ont travaillé avec les universités du Nord, et pour être plus clair, lorsque les chercheurs du Nord ont travaillé avec les chercheurs du Sud, c'était dans des perspectives souvent de soutien, dans une perspective un peu humanitaire. Mais ce paradigme-là est en train de changer complètement actuellement. On veut travailler avec le Sud parce qu'il y a des compétences au Sud, et d'où la nécessité d'ailleurs de laisser ces compétences-là sur place, de ne pas rapatrier tous les cerveaux. Il y a, comme vous le savez sans doute, une forme de traite des cerveaux scientifiques dans le monde. La tendance, c'est de ramener chez soi tous ceux qui sont compétents et qui peuvent apporter quelque chose au domaine de la connaissance. Je pense qu'on est dans un pari inverse de plus en plus, et puis l'ACFAS participe à cette idée-là aussi, que l'AUF développe de son côté. C'est en fait de s'assurer qu'il y a toujours les compétences dont on a besoin au Sud, qu'il y ait des universités bien structurées, qu'il y ait des chercheurs qui sont capables de collaborer au même niveau, à égalité avec les chercheurs.
En partenaire, vous m'avez dit hier quand on se parlait, vous me parliez de votre attachement pour le Brésil.
Ah, c'est un
grand pays. Est-ce qu'on fait de la science en français au Brésil? C'est pas tellement
en fait,
le lieu, non?
Oui, mais pourtant, oui, il y a telle chose que les pays traditionnels de la francophonie, la France, la Belgique, la Suisse, les pays africains. Mais on découvre de plus en plus une nouvelle francophonie universitaire qui est dans le Sud. Et puis moi, quand je vais au Brésil, je ne travaille qu'en français avec des collègues qui ont fait leurs études en Europe ou qui ont appris le français tout simplement au fur et à mesure du cursus scolaire. Et les collaborations sont importantes et sont possibles avec ces
universités. Et c'est quoi le point commun ou le point d'ancrage entre l'immense Brésil au sud et le tout petit Québec au nord ou la francophonie canadienne au nord?
Je dirais qu'il y a, faut reconnaître qu'on a un intérêt commun, justement. Cet intérêt-là, c'est que le Brésil, la langue du Brésil, c'est le portugais. Et dans un sous-continent, l'Amérique du Sud, qui est finalement de langue espagnole.
Oui.
Et nous, finalement, on est un peu dans la même situation. On est des francophones dans un monde très anglophone. Et donc, il y a comme une alliance stratégique. Il y a une complicité tacite entre ces locuteurs francophones et lusophones,
oui,
qui tous les deux comprennent bien la nécessité de se reconnaître mutuellement et de travailler ensemble. Mm-hmm.
Et ça donne des choses vraiment concrètes.
Oui, parce que des équipes se développent au fur et à mesure de la collaboration qu'on essaie d'établir entre les universités. Mais il faut être clair. Souvent, quand on parle de l'internationalisation, on parle de la jonction entre les universités, mais ce sont les chercheurs, fondamentalement, qui s'unissent les uns les autres.
Ce sont les chercheurs qui font la recherche, dit-on, et non pas les institutions. Merci beaucoup, Pierre Noreau, donc président de l'ACFAS en troisième année de mandat, et aussi donc responsable du Bureau des Amériques de l'Agence
universitaire de la francophonie.
Universitaire de la francophonie. Merci beaucoup.
Merci.
Des chercheurs de l'Université de Moncton ont colligé le premier lexique des jurons et gros mots acadiens, en plus de mener une enquête sur l'utilisation de ces expressions pittoresques. La professeure d'études françaises Sylvia Kasparian a interrogé 141 Acadiens du Nouveau-Brunswick. Les trois quarts ont déclaré que les jurons faisaient partie de leur vocabulaire, surtout les jeunes de moins de 35 ans. Ce sont principalement les 50 ans et plus qui disent jurer seulement en français. La majorité utilise autant des jurons anglais que français, ainsi qu'une combinaison originale des deux. Le titre évocateur de la présentation était « C'est christement compliqué, ce shit-sit ».
Manger. Ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, comment l'apprêter, comment varier, comment innover, comment conserver cette tradition. L'alimentation, c'est devenu une obsession, ou presque. On s'est habitué à voir la science y mettre le nez jusque dans les molécules. On connaît la cuisine moléculaire, mais c'est avec les lunettes de l'histoire et de l'anthropologie que vous allez nous parler de nourriture, Sophie-André Blondin.
Effectivement, parce que ce qu'il y a dans votre assiette, c'est un peu votre choix, mais c'est beaucoup votre culture. Et ce qui est biologiquement mangeable n'est pas culturellement comestible. C'est une magnifique phrase. Elle n'est pas de moi. Elle est d'un chercheur connu en la matière qui s'appelle Claude Fischler. Alors, avec mes invités, je vous propose deux regards sur les traditions culinaires, deux regards qui, à travers notre assiette, nous emmènent dans le champ de la biologie et jusqu'à la géopolitique, je vous les présente. Sylvain Poirier est ici. Il est venu présenter les résultats d'une étude qu'il signe qui s'intitule « Le goût du Québec, ruptures et continuités ». Monsieur Poirier, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Et Adélide Daraspe est doctorante en histoire à l'Université de Sherbrooke et en anthropologie à Tours, à l'Institut d'histoire et de culture de l'alimentation. Bonjour, Adélaïde.
Bonjour.
Adélaïde est d'origine basque, alors ses travaux se concentrent sur les cultures, les traditions culinaires de la communauté basque, la diaspora basque, donc les Basques établis ici. Mais avec vous, tout d'abord, on va retourner dans l'histoire, mais très, très loin dans l'histoire, parce que avant d'avoir des traditions gastronomiques ou culinaires, l'humain a dû reconnaître, pardon, autour de lui ce qui était comestible et ce qui n'était pas dangereux. C'était une première étape.
Absolument. D'ailleurs, Claude Fischler, que vous avez cité juste avant, parle de ça, du choix que les hommes ont dû faire depuis la préhistoire. Il a fallu choisir entre ce qui était toxique et ce qui ne l'était pas, et éventuellement faire évidemment des essais qui étaient parfois positifs, parfois négatifs. Et cette inquiétude un petit peu sur la toxicité ou non des aliments, en fait, on ne l'a pas perdue même aujourd'hui, puisqu'elle est encore bien d'actualité.
Absolument. Et dans l'histoire, parfois, la couleur a donné des indices aux humains. Rouge, ça voulait dire poison, par exemple. Même pour la tomate en Italie.
Et oui, on a tendance à penser que la cuisine italienne n'a jamais pu exister sans tomate. C'est d'ailleurs l'heure du repas. Mais en fait, c'est un produit qui a été intégré à la cuisine italienne seulement au 18e siècle, ce qui est assez récent dans l'histoire. Et il a fallu qu'un monsieur descende dans la rue et mange un panier de tomates au complet pour convaincre tous les citoyens de son village que la tomate n'était pas toxique parce qu'elle ressemblait à un autre fruit qui l'était vraiment.
Heureusement, il n'en est pas mort.
La patate aussi a déjà subi cette suspicion. Évidemment, quand vous voyez une patate germer en dessous de votre comptoir, c'est pas tellement tentant pour en faire la consommation. Donc, la patate, qui a toujours été un peu lépreuse de par sa couleur, eh bien, a longtemps été laissée de côté. Il a quand même fallu attendre les travaux de Parmentier, par exemple, en France, pour qu'elle devienne finalement comestible pour tous.
Pour vendre la patate. Et au fil des siècles et des millénaires, l'homme a accumulé des connaissances sur les aliments qui menacent sa santé, mais d'autres qui maintiennent la santé, qui rétablissent la santé. Et longtemps, médecine, gastronomie et diététique ont eu un tronc commun.
Oui, absolument. C'est d'ailleurs le travail de Jocelyn Cadorette, un étudiant de l'Université de Sherbrooke, qui montre que les officiers de bouche qui s'occupaient de la nourriture de l'élite à l'époque moderne, au XVIIIe siècle, eux devaient vraiment contrôler l'alimentation des personnes et la médecine était complètement liée. Donc la théorie des humeurs qui veut dire que une personne qui a une humeur calme doit manger tel aliment, une personne qui est beaucoup plus nerveuse peut-être doit contrôler son alimentation en mangeant des choses qui sont peut-être plus fortes.
Ça peut paraître farfelu, mais on a des régimes pour les groupes sanguins maintenant. C'est pas nécessairement moins farfelu.
Oui, absolument. En parlant de groupes sanguins, on pensait qu'une fois qu'on avait saigné une personne, hein, ce qui était une des méthodes bien utilisées pour soigner les personnes, le vin rouge pouvait rétablir le sang, puisque le vin rouge...
C'est rouge.
C'est rouge, c'est ça.
C'était logique. Bon, on a commencé par manger, regarder et absorber dans sa culture culinaire ce qui était autour de nous, mais assez rapidement, les États ont voulu aller chercher ailleurs des ingrédients. Et là, on passe de la biologie de la cuisine à la géographie, à même à la géopolitique.
Ben, c'est évident. Avec la découverte de l'Amérique, l'Europe a réalisé qu'elle avait un grand marché avec le maïs, par exemple, avec la patate, la pomme de terre, et la tomate, justement, qui n'était pas originaire d'Italie. Donc, pomodoro, théoriquement, la tomate devait être plutôt jaune que rouge.
Alors, on est allé chercher ailleurs des ingrédients qui, maintenant, nous représentent. Par exemple, chez les Basques Adélaïdes, l'ingrédient suprême, l'ingrédient emblématique, c'est le piment d'Espelette.
Absolument.
Mais ça vient pas de la région.
Non, Espelette, c'est le nom d'un village au Pays Basque. Or, le piment vient de l'Amérique du Sud et il a été découvert en même temps que l'Amérique et transporté au Pays Basque. Il a été très vite adopté parce que c'était un remplacement du poivre qui coûtait très cher à l'époque. Donc, les Basques ont commencé à l'utiliser et l'employer dans leur alimentation très rapidement. Or, ensuite, les Basques qui sont au Québec actuellement, puisqu'il y a une association des Basques du Québec...
Que vous présidez.
Oui, je suis présidente de l'association des Basques du Québec.
On y mange de la piperade, je pense.
Absolument.
Oui.
Nous avons un site web, si vous voulez vous intéresser.
Et dans la piperade, il y a plein d'ingrédients qui ne viennent pas du Pays
Absolument.
Basque.
Absolument. Les poivrons et les piments ne sont pas originaires de la région. Donc, ce que j'ai trouvé justement intéressant d'étudier, c'était cette espèce de double migration. Les aliments sont passés de l'Amérique au Pays Basque, puis ensuite reviennent par le biais de ces immigrants qui leur donnent une importance considérable parce que quand on a immigré, retrouver un plat qui vient de chez nous, même si c'est un tout petit peu, une petite pincée de piment d'Espelette dans notre assiette, c'est vraiment important.
Quitte à aller chercher et à leur apporter plus ou moins légalement au pays.
Absolument. Il y a aussi des petites cultures qui se forment, comme certaines personnes qui font pousser chez eux du piment d'Espelette avec des graines qu'ils ont ramenées.
Ah oui, absolument. Et nous aussi, M. Poirier, on a nos traditions culinaires. On est passé de la mère Caron au père Pinard. On pourrait dire ça comme ça.
Oui, on pourrait effectivement dire qu'on est passé de la mère Caron au père Pinard.
Qui était la mère Caron? Le père Pinard, on a une idée.
La mère Caron, en fait, on retourne ici au début du siècle et bon, tous les livres de cuisine du début du siècle ont plutôt tendance à favoriser l'enseignement de la cuisine pour les mères de famille. Donc, nourrir la famille, c'est la première question qui vient en tête à cette époque. On n'a pas affaire à des recettes poétiques dont les titres sont étonnamment bizarres des fois, comme par exemple l'intrigue de truite qu'on trouve dans le livre de l'ITHQ en 1977. Bien, l'intrigue de truite, c'est une truite faite avec du cidre. Cidre qui est justement mis en vente à l'époque dans les épiceries au Québec. Donc,
on s'en souvient dans les années 70,
hein, on s'en souvient
ça va
très
faire
bien. Donc, il y a une question de mode aussi là-dedans, en passant du début du siècle, qui était plutôt une nourriture qui prenait ses racines dans, disons, le complexe anglo-saxon, donc surtout de la cannelle, des choses comme ça, de la muscade. Alors que plus on s'en va vers le Perpinard, par exemple, là, on va avoir affaire beaucoup plus à des herbes provençales. Et maintenant, c'est plutôt un complexe asiatique, indien, gingembre, le cumin, le curcuma, le curry, donc ces choses-là qui commencent à entrer dans notre culture.
Et vous avez fait dans votre étude une roue des épices comme ça qui est très impressionnante, où on voit au début du siècle, du 20e siècle, que c'est le sel et le poivre,
principalement.
Peut-être du sel de céleri à la rigueur.
Oui, peut-être.
qui occupe la roue et cette roue-là, elle s'est vraiment complexifiée.
Absolument.
Maintenant.
Et d'ailleurs, dans les recherches qu'on a faites au travers de 3 générations au Québec, à Montréal en particulier, on a réalisé que les gens pour eux, la grande différence entre leurs grands-parents et eux, c'était la diversité alimentaire. Donc ça, c'est phénoménal au niveau des épices et des herbes surtout.
Oui, mais ça ne marche pas tout le temps. Vous l'expliquez dans votre travail. On ne peut pas échapper à la dinde à Noël. Les familles essayent de varier à Noël. Mais non, ça chiale, ça prend de la dinde et des atokas, pas des canneberges, des atokas. Pourquoi est-ce qu'on est prisonnier de nos traditions comme ça?
Ben, peut-être parce que c'est un symbole de... on pourrait dire de filiation. En fait, c'est vraiment la filiation entre nos parents, nos arrière-grands-parents. Donc, à ce moment-là, on peut dire qu'à Noël, on communie, si on peut dire, particulièrement à ce type de nourriture qu'on ne mange pas en d'autres temps de l'année. C'est ce qui est d'ailleurs étonnant. C'est effectivement de la nourriture presque emblématique pour le Québec, c'est-à-dire la tourtière, le ragoût de boulette, la dinde avec les atokas, canneberges, si vous voulez. Donc, cette tradition-là, on la garde dans un moment spécifique.
Et quand on veut inclure quelqu'un dans sa communauté, on passe par les aliments emblématiques. À Noël, c'est la dinde, mais le reste du temps, et vous l'avez vécu, Adélaïde, c'est la poutine.
La poutine, ah oui. J'ai eu la chance de goûter à la poutine lors de ma première journée à Montréal.
Oui. Ah oui?
Oui.
Alors, il faut passer un test. Alors, c'est une espèce de rite initiatique pour entrer dans une culture. Si je veux aller voir les Basques, qu'est-ce qu'on va me servir?
Oh, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Récemment, quand on fait des repas de Basque à Montréal, on fait de la choa, qui est un ragoût de veau mijoté avec des piments d'Espelette, des poivrons. C'est très bon. On fait aussi tout ce qui est omelette à la morue, par exemple. Les piquillos, qui sont des poivrons comme des piments d'Espelette, qui sont farcis à la morue et aux pommes de terre. Je vais vous donner faim.
C'est quand, ça?
C'est où et à quelle heure?
Il y en a régulièrement.
Alors, à travers tout ça, ça contribue à nous faire trouver des repères dans l'espèce de grande cacophonie alimentaire. Est-ce qu'on vit sous un régime d'expertocratie? Il y a trop d'experts en choses alimentaires pour qu'on s'y retrouve?
Je dirais pas. Je pense que le sujet alimentaire est très varié et qu'on a besoin de toutes les disciplines, en fait, de la nutrition à la biologie, à l'histoire, à l'anthropologie. Ça permet de mieux comprendre l'alimentation parce que ce qu'on a dans notre assiette permet de nous définir. C'est notre identité. Permet de aussi présenter la culture à d'autres personnes. Donc, à l'heure de la mondialisation, ça me semble important.
Bon, on ne gardera plus l'assiette de la même façon. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup. Je rappelle donc, Sophie André, le nom de vos invités, Adélaïde Daraspe, qui est doctorante en histoire à l'Université de Sherbrooke, et Sylvain Poirier, auteur de Le goût du Québec, rupture et continuité. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Merci.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, une émission spéciale enregistrée jeudi devant public à l'Université de Montréal dans le cadre du 78e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. Alors, les scientifiques peuvent-ils influencer les politiques publiques et dans quelle mesure les politiques publiques influencent-elles à leur tour la recherche scientifique? Ces grandes questions ont retenu l'attention cette semaine lors d'un débat auquel participait une des invitées de marque de ce congrès de l'ACFAS, une personne qui, justement, est avec nous, Chantal Srivastava.
Et je vous la présente sans plus tarder, Yannick. Alors, elle s'appelle Corinne Lepage. Elle a été, imaginez, ministre de l'Environnement en France entre 1995 et 1997. Alors, Madame Lepage, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous êtes toujours intéressée par l'environnement. Vous êtes députée du Parlement européen où vous occupez un rôle important en matière d'environnement également, au sein d'une commission bien spécifique.
Oui, je suis la première vice-présidente de la commission santé et environnement du Parlement européen.
Alors, cette préoccupation pour l'environnement, Madame Lepage, vous suit depuis toujours, pour ainsi dire, tout d'abord comme avocate spécialisée en droit de l'environnement, tout d'abord donc dans un dossier dont on a beaucoup entendu parler, qui a une résonance par les temps qui courent, l'Amoco Cadiz. Vous avez défendu les victimes des côtes bretonnes et vous avez réussi tout un exploit comme avocate en 1978.
Oui, avec Christian Huglot, nous avons effectivement eu l'honneur de défendre les collectivités bretonnes aux États-Unis. C'était la première fois.
C'était un déversement de pétrole, comme
c'était dit, un déversement de pétrole. Nous avons en fait eu deux résultats importants. Le premier, ça a été de faire en sorte que ce soit la maison mère qui soit condamnée et non pas la société qui était propriétaire du bateau et qui avait été créée pour cela. La maison mère, c'était Standard Oil of Indiana, à l'époque une des sept sœurs, c'était pas rien. Et nous les avons fait payer, ça a pris 14 ans, mais ils ont payé. Et la somme à laquelle ils ont été condamnés est probablement la plus importante à laquelle une société pétrolière ait été condamnée aux États-Unis, puisqu'on a eu plus que pour l'Exxon Valdez. Finalement.
Et je soupçonne donc que vous surveillez très étroitement ce qui se passe présentement dans le golfe du Mexique.
Bien sûr. Alors après cela, avec Christian, nous avons défendu dans le dossier de l'Erica contre la société Total en France, où nous avons gagné également et fait condamner au pénal la société Total. Et nous regardons avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe et beaucoup d'interrogations aussi ce qui se passe dans le golfe du Mexique.
Alors ça, c'est le travail que vous faites encore aujourd'hui comme avocate, mais il faut parler également de ce que vous avez fait comme ministre de l'Environnement en France. Entre autres, et là, on va entrer dans le vif du sujet, ce lien entre la recherche scientifique et l'élaboration des politiques publiques, l'épineuse question des OGM, Madame Lepage. Vous avez donc imposé, comme ministre, laissez votre marque, imposé un moratoire sur la mise en culture des OGM en France. À l'époque, on était en 98, et ce faisant, donc 97-98, et ce faisant, vous avez découvert que jongler avec des avis scientifiques, des avis d'experts, quand on est politicien, ce n'est pas toujours facile.
Oui, j'ai effectivement obtenu du président de la République et du premier ministre de l'époque, c'était Jacques Chirac et Alain Juppé, un moratoire sur les OGM, après avoir pris beaucoup de temps à entendre entendre beaucoup d'experts, des deux parties, des deux côtés. Parce que je voulais me faire une idée, que je connaissais très très mal le sujet. Et donc j'avais procédé de la manière suivante, j'interrogeais ceux qui étaient contre pour savoir quelles étaient les questions qui se posaient, et ensuite j'interrogeais ceux qui étaient pour juger de la qualité de leurs réponses.
Vous aviez un a priori ce faisant, vous étiez
campé
dans un camp.
J'étais plutôt a priori réticente. N'oublions pas qu'à cette époque-là, 96, c'était en pleine crise de la vache folle en Europe. C'est le moment où nous apprenions que le prion passait la barrière des espèces et donc qu'il fallait peut-être avoir un petit peu de prudence quand même. Donc j'étais plutôt réticente, mais ce que j'ai entendu et la manière dont les choses se sont passées m'ont convaincue qu'il fallait aller vers un moratoire, et j'en ai convaincu le Premier ministre et le Président de la République.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des difficultés lorsqu'on s'adresse à des experts et qu'il n'y a pas consensus et unanimité comme politicien? Comment on tranche pour savoir quels sont les intérêts en cause, quelles sont les pressions? Est-ce que la science a toujours raison à 100%? Est-ce que dans l'exercice scientifique, il n'y a pas toujours un risque, une incertitude, un doute? Ça fait partie de la science?
Le doute fait bien entendu partie de la science. Ce qu'a à faire le politique, c'est en son âme et conscience de décider ce qui lui paraît être le meilleur pour la société à un moment donné du temps. Alors comment est-ce qu'il se détermine? D'abord, je dis en son âme et conscience. Cela veut dire résister à toute pression, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui me paraît insuffisamment appliqué par les temps qui courent. Et je ne vise aucun gouvernement en particulier et beaucoup en général. Deuxièmement, effectivement, se donner les moyens de faire le moins d'erreurs possible. On ne peut jamais dire qu'on ne se trompe pas. Nous sommes des humains et par voie de conséquence appelés à nous tromper. Mais par contre, on peut faire le maximum pour ne pas se tromper. Donc, croiser les avis d'experts et avoir beaucoup d'attention sur le choix des experts. Quels sont les experts qu'on choisit?
Et justement, présentement en France, Madame Lepage, je ne peux pas m'empêcher de passer sous silence cette controverse qui fait rage sur un autre dossier délicat en science par les temps qui courent, les changements climatiques et les experts qui, au nom de leur expertise, donnent des avis diamétralement opposés quant à l'origine de la hausse des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. D'un côté, un de vos anciens ministres, Claude Allègre, qui dit que l'humain a peu à voir là-dedans. De l'autre, des scientifiques par centaines maintenant qui disent « Attention, il y a une science solide qu'on est en train de rejeter du revers de la main. Comment on se situe par rapport à tout ça comme politicien qui a décidé?
Je pense qu'il y aura une vraie thèse à écrire sur Claude Allègre. moi, je veux bien qu'on dise que c'est un scientifique. Il l'est à certains égards. Mais c'est un géophysicien, ce n'est pas un climatologue. Donc, il n'est pas expert dans le domaine de la climatologie. Peut-être expert dans le domaine des sciences de la Terre, mais ce n'est pas la même chose. Et deuxièmement, je vais vous dire, pour moi, le scientifique, c'est celui qui accumule ses connaissances, qui les remet en cause, qui doute, qui certes défend ce qu'il croit, mais qui est toujours capable d'écouter ce qu'on lui dit. Et quand un scientifique, comme M. Allègre, auquel 400 de ses collègues mettent sous les yeux les anomalies, les erreurs, les absurdités de son livre, page par page, paragraphe par paragraphe, et que la seule réponse qu'il a, c'est qu'il n'a rien à en faire parce qu'il vend 13 000 livres par jour ou par semaine, pour moi, il ne fait plus partie de la catégorie des scientifiques tels que je les entends au sens éthique du terme.
Et justement, Mme Lepage, donc vous avez pour le gouvernement fait un rapport, entre autres, sur la gouvernance écologique et sur l'utilisation des experts. Un des problèmes qu'on a, est-ce que ce n'est pas que parfois les experts vont avoir des connaissances sur les sujets de recherche auxquels ils ont pu s'intéresser. Et pour faire de la recherche, ça prend de l'argent. Donc, on est dans un cercle vicieux. Il y a des points de vue qu'on n'entendra peut-être jamais parce que pour les financiers ou pour les gouvernements, ce n'est pas une science qu'on veut financer, justement.
Vous avez raison. C'est très important. On ne peut aller vers une bonne connaissance, et c'est le but du jeu quand même, notamment à disposition des décideurs politiques, que pour autant qu'on a une expertise qui est pluridisciplinaire. C'est très important parce que vous pouvez mettre des gens très différents. S'ils ont tous la même discipline, le même type d'expérience, ils se poseront les mêmes questions et oublieront de se poser les autres. Donc la pluridisciplinarité. Une expertise pluraliste, c'est-à-dire qui reflète des scientifiques qui peuvent avoir à l'égard du doute, à l'égard du principe de précaution, à l'égard du principe de prévention, des points de vue différents. Et enfin, une expertise contradictoire. Moi, je défends l'idée d'une expertise dans laquelle il doit y avoir la défense du pour et la défense du contre. Et on doit avoir les deux. Et on doit avoir les éléments qui étayent l'un et l'autre. Et c'est ensuite aux décideurs, non pas de dire forcément qui a raison, c'est pas de cela dont il s'agit, mais ce qui, en son âme et conscience, lui paraît être le meilleur choix, compte tenu précisément du débat scientifique et de la controverse.
Madame Lepage, je prends la minute qui nous reste pour inviter les auditeurs, les gens qui sont ici, à peut-être consulter un livre justement dans lequel vous résumez votre pensée sous forme de chronique en collaboration avec le biologiste Jean-François Bouvet, un livre qui commence à être disponible, à être distribué dès cette semaine et qui s'intitule « Sans le nucléaire, on s'éclairait à la bougie et autres tartes à la crème du discours techno-scientifique au seuil ». Un livre pour remettre les pendules à l'heure et...
Oui, c'est un livre grand public, c'est un livre écrit avec un peu d'humour, on a eu envie de rire. Et on a pris les phrases qui nous ont paru les plus stupides.
Comme par exemple
sans le nucléaire, on s'éclairerait à la bougie.
Voilà.
Au Canada, au Québec, je crois que vous avez beaucoup d'électricité renouvelable, hydroélectrique.
Oui.
Vous n'avez pas beaucoup de nucléaire et on ne s'éclaire pas à la bougie. Voilà, donc c'est typiquement une phrase stupide. Et il y en a comme ça une quinzaine. Et chaque fois, on explique pourquoi c'est stupide, donnant ainsi à ceux qui le pensent des arguments un peu plus sérieux que l'intuition pour pouvoir répondre à ceux qui osent encore aujourd'hui avoir des discours de cette nature.
Bien, je vous remercie beaucoup, Madame
Merci
Lepage.
À vous.
Merci, Madame Lepage. Donc, je rappelle que vous avez été ministre de l'Environnement en France entre 1995 et 1997 et aujourd'hui députée au Parlement européen. Merci d'être venue
Merci
nous voir.
Merci de votre invitation.
Les hommes, on le sait, sont moins enclins que les femmes à parler de leurs bobos physiques et psychologiques et à consulter un médecin. Le gouvernement australien vient de prendre une mesure pour le moins originale pour améliorer leur santé. Ils misent sur leur passe-temps favori, le bricolage dans le cabanon. C'est ce que nous apprenait un chercheur australien à l'ACFAS. L'État australien investit 3 millions de dollars dans les men's sheds, des ateliers où les hommes de tous âges bricolent ensemble, rafistolent des meubles, remettent à neuf des jouets, le tout pour une bonne cause. Mais c'est surtout l'occasion de parler de leurs problèmes et de briser l'isolement, un isolement qui peut autrement conduire à la dépression et au suicide. Le premier ministre aime tellement ses cabanons qu'il a lancé la première politique nationale pour la santé des hommes le 9 mai dernier dans un des 400 men's sheds qui existent au pays.
Merci Mathieu de nous rappeler l'importance du bricolage. Merci. Alors, la nature est venue une nouvelle fois nous rappeler cette semaine qu'elle peut être meurtrière. Vous avez sans doute entendu parler de ce glissement de terrain qui a provoqué la mort d'une famille de 4 personnes lundi soir à Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, dans le centre du Québec. Une catastrophe naturelle d'autant plus imprévisible qu'elle s'est produite dans un secteur à faible risque pour ce type d'événement. Gaëlle, Lucia Berdoux.
Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Et cette notion de risque naturel, faisait justement l'objet, Yannick, d'un colloque à ce congrès de l'ACFAS. Évidemment, l'événement qui s'est produit à Saint-Jude était sur toutes les lèvres, surtout que le premier à prendre la parole était un spécialiste, notamment des glissements de terrain,
oui.
Et qui parcourt d'ailleurs la province pour les étudier. Il est géographe, il s'appelle Daniel Germain. Il est professeur à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, M. Germain.
Bonjour.
Alors, racontez-nous peut-être, décrivez-nous un peu ce qui s'est passé précisément à Saint-Jude, c'est quand même pas banal.
Non, c'est pas banal. En fait, le Québec, on retrouve pratiquement dans l'ensemble des basses terres du Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les dépôts argileux, donc qui sont un héritage des mers post-glaciaires qu'on a eues. Et donc, ces dépôts-là sont susceptibles au glissement de terrain. Ce qui s'est produit à Saint-Jude, en fait, c'est une liquéfaction des argiles. Donc, on est passé d'un état solide à un état liquide, ce qui est d'autant plus rare et ce qui fait que le glissement est non pas catastrophique d'un point de vue humain, mais aussi exceptionnel d'un point de vue processus géomorphologique. Donc, une étendue d'un kilomètre de longueur par pratiquement un demi-kilomètre de largeur.
Donc, cette coulée argileuse dans la catégorie des glissements de terrain, c'est déjà une exception.
C'est déjà une exception, oui.
Et on a dit que c'était une zone à faible risque où ça s'était produit, donc dans le coin de Saint-Jude où cette maison était bâtie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à faible risque?
En fait, ce qu'il faut comprendre, actuellement, le ministère de Transport est en train de mettre à jour plusieurs cartes. Donc, et de cartographier des secteurs qui n'avaient pas été cartographiés. Donc, un secteur à faible risque, faudra voir de quand date la dernière carte, mais ça ne veut pas dire qu'un secteur à faible risque ne peut pas avoir de glissement de terrain. Donc, c'est toujours une possibilité.
Et comment est-ce qu'on détermine ce qui est un faible risque et un risque élevé?
Bien, normalement, on essaie de voir si on a des données d'archives. Comme au Québec, les archives sont relativement rares, donc on se porte un peu plus sur les archives naturelles, l'analyse de photographies aériennes. On essaie de trouver les antécédents environnementaux, en fait, qui pourraient nous signifier qu'il y a déjà eu des événements similaires dans le passé.
Et vous disiez, on ne sait pas, vous ne savez pas de quand date la carte qui a servi à déterminer que cette zone-là était à faible risque. Est-ce qu'on a beaucoup de cartes comme ça qui remontent à loin ou qui ont peut-être besoin d'être mises à jour?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au Québec, souvent, il y a certaines cartes qui ont été produites, soit par des professeurs-chercheurs universitaires ou des ingénieurs, en fait, pour certains secteurs pour lesquels on avait un intérêt. Mais il n'y a jamais eu de campagne de zonage à risque, donc pour le cadre bâti. Et cette campagne-là, en fait, a été lancée par le ministère de Transport il y a environ 4 ou 5 ans. Donc, évidemment, en 4-5 ans, il faut être raisonnable. On ne peut pas cartographier la totalité du Québec. Donc, on a commencé par les zones densément peuplées, mais le travail reste toujours à continuer et à se peaufiner aussi avec l'avancement des connaissances technologiques et d'un point de vue scientifique aussi.
Donc, les nouvelles connaissances vont peut-être nous permettre d'apprendre qu'il y a des zones où on a bâti et peut-être qu'on s'est trompé ou on n'aurait pas dû?
Bien, fort probablement, dans mesure où la majorité des secteurs susceptibles au glissement de terrain sont dans les basses terres du Saint-Laurent, c'est également là où on retrouve environ 80 ou 85 % de la population. Il faut malheureusement penser qu'il y a certainement d'autres habitations qui sont dans des secteurs susceptibles au glissement de terrain.
Bon, ça va faire beaucoup de monde à faire déménager, ça.
Éventuellement.
Alors, pour que ce glissement de terrain ait eu lieu à Saint-Jude, il a fallu qu'il y ait un élément déclencheur. Est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités? Est-ce qu'on est capable de dire c'est pour ça que ça s'est produit?
Le problème, en fait, c'est une étude a posteriori, c'est très difficile de mettre le doigt sur l'élément déclencheur. Donc, ça peut être un sapement de la berge lié au passage de la rivière. Ça peut être un engorgement du sol d'un surplus d'eau. Donc, il y a des conditions aussi d'ordre hydrogéologique dans le sous-sol qu'on ne voit pas, donc en étant à la surface du sol, et que ça devient extrêmement difficile de supposer les conditions qui ont initié la coulée argileuse.
On sait que les changements climatiques font changer certaines de ces conditions-là depuis les dernières années. Ça faisait partie des thèmes qui étaient abordés dans le colloque auquel vous participiez. Est-ce que c'est possible que, justement, les glissements de terrain, comme d'autres risques naturels, soient augmentés avec les changements climatiques?
Certainement. En fait, ce qu'on réalise avec les changements climatiques, c'est pas tellement l'augmentation de la température moyenne annuelle qui est importante, mais c'est plutôt de la manière dont cette augmentation de température-là va se manifester. Par exemple, des périodes de canicule plus intenses durant l'été, des redoux accrus durant la période hivernale. Et normalement, tout cet événement plutôt catastrophique, inondation, avalanche de neige, glissement de terrain, généralement répond à des paramètres météorologiques très, très spécifiques à entre 24 et 72 heures. Donc, des précipitations intenses, période de redoux qui peut favoriser des avalanches de neige. Donc, oui, dans la mesure où le réchauffement climatique en cours est anticipé, devrait générer une plus grande variabilité climatique de jour en jour. Donc, à l'échelle intra-annuelle, on peut s'attendre à avoir des événements de ce type-là, peut-être de manière plus fréquente.
Et parce que des inondations peuvent aussi causer des glissements de terrain, etc., c'est souvent lié. Est-ce que la mise à jour de ces cartes, justement, où on évalue le risque de ces événements-là, a besoin d'intégrer tout ça?
Bien, une des choses, c'est que si on travaille à l'échelle individuelle avec chacun des processus, c'est déjà un avancement, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir se pencher, mettre en place une table de concertation où il va falloir travailler avec une approche multirisque. Donc, comme vous le dites, un glissement de terrain peut créer, par exemple, obstruer le lit d'une rivière, favoriser des inondations et vice-versa.
Donc, c'est un peu pour ça que vous militez, vous, cette espèce de synergie, ce que vous appelez une...
Oui, un effet de synergie entre les processus naturels.
Oui. Oui, alors comment on pourrait faire ça? Est-ce qu'on est capable, avec les connaissances actuelles, de mettre ça en commun?
Bien, il faudrait avoir les secteurs où on note une susceptibilité multirisque, si je peux dire. Il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, d'une part, il y a une problématique technique, comment on représente ça sur une carte, et d'autre part, il y a une problématique, je dirais, plus concrète, donc comment on gère le risque. Par exemple, si vous êtes dans une zone caractérisée à faible risque de glissement de terrain, à faible risque d'inondation, est-ce qu'on va permettre quand même un cadre bâti dans cette zone-là, dans la mesure où il y a deux processus naturels, même s'ils sont de faible intensité ou de faible probabilité de survenir, est-ce qu'on va permettre... qu'est-ce qu'on va mettre en place comme cadre normatif?
Alors, qu'est-ce que vous feriez, vous, puisque c'est votre spécialité?
Bien, on étudie la question et on y travaille.
Vous travaillez aussi sur les avalanches, sur les inondations, sur les glissements de terrain. Est-ce qu'il faut vraiment avoir une idée? Je ne sais pas, moi, est-ce qu'il faut dire aux gens, non, vous ne construisez pas ici, il y a des risques d'inondation, il y a eu une avalanche il y a 150 ans ou il y a 35 ans, il y a eu un glissement de terrain il y a 2 ans ou il y a 125 ans?
Bien, tout à fait. Je pense qu'on y vient depuis la nouvelle loi sur la sécurité civile en 2001. Donc, je pense qu'on est passé d'un cadre de réaction post-catastrophe à un cadre de prévention. Je pense que la machine est en marche, si je puis dire. Donc, on commence à produire des cartes, on commence à mettre l'effet de synergie, en fait, entre les connaissances gouvernementales, les scientifiques des universités. Et oui, on va sans doute en venir à produire des cartes puis à essayer de mettre un cadre normatif précis où chacune des municipalités devra réglementer les zones à risque.
Mais est-ce qu'on va vraiment être capable de dire aux gens, cette région qui est densément peuplée, il n'est pas question de faire un centre commercial ici parce que...
Bien, il va falloir.
Il va falloir.
Il va falloir prendre des mesures ou un cadre normatif sévère, comme c'est le cas en Europe, dans les pays européens, puis continuer à mettre à jour les cartes aussi. Donc, c'est un travail continu.
Et est-ce qu'on a les notions scientifiques? Est-ce que vous avez les notions scientifiques pour déterminer?
Bien, sur certains risques, oui. Mais je pense qu'au Québec, on les a. Il suffit de continuer à former des étudiants. Puis, je pense qu'on a les moyens techniques. Et je me dis, toujours moyen de faire des stages aussi à l'extérieur. Il y a plusieurs pays en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, qui sont avancés, qui ont des cadres normatifs très sévères pour l'implantation des activités humaines.
Je vous remercie beaucoup, M. Germain.
Ça fait plaisir.
Alors, merci beaucoup, Gaëlle Ducier-Berdoux. Je rappelle le nom de votre invité, donc, Daniel Germain, qui est professeur au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal. Merci d'être venu nous voir.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de notre première heure. Je vous invite à ne pas manquer ce soir à la télévision de Radio-Canada à 18h30 l'émission Découverte qui poursuit sa magnifique série Haute Définition, s'il vous plaît, sur l'histoire de la vie. Alors ça, c'est ce soir à la télévision de Radio-Canada. En attendant, vous restez avec nous à la radio de Radio-Canada pour la suite de notre édition spéciale sur le 78e congrès de l'ACFAS, une émission enregistrée à l'Université de Montréal. Et ça, c'est immédiatement après le bulletin de nouvelles. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour Yannick Villedieu, toujours à l'équipe pour vous présenter cette édition spéciale du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, une émission spéciale parce qu'enregistrée jeudi midi à l'Université de Montréal sur le plancher du 78e congrès de l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir. Alors au cours de cette deuxième heure, on va parler du procès du renard. Oui, oui, oui. On va reparler des mines et des résidus miniers. On va parler des conflits d'intérêts en recherche, on va parler des 50 ans du laser et aussi on va parler de façon toute particulière de microbes. Eh bien, vous connaissez tous et toutes la fameuse fable de Jean de La Fontaine qui met en scène un renard, un corbeau sur son arbre perché et un bien beau morceau de fromage. Mais le renard de la fable a-t-il vraiment mérité le fromage du corbeau? Ou a-t-il triché? Ou alors a-t-il tout simplement fait preuve de ruse? C'est toute une question que vous allez nous soumettre là, Chantal Srivastava.
Une très belle question, en effet, oui. Yannick, qu'on peut transposer dans une foule de domaines. Et c'est justement sur ce genre de questions que se sont penchés des chercheurs réunis ici cette semaine à l'ACFAS dans le cadre d'un colloque de 3 jours sur la ruse et la triche. La ruse et la triche qui sont des moyens qu'on déploie souvent pour obtenir un objet convoité ou le pouvoir qu'on désire. Alors, pour poursuivre la réflexion et peut-être répondre à la question sur les mérites du renard, j'ai invité un des organisateurs de ce colloque, Charles Perraton, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur titulaire au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal et également directeur d'un groupe de recherche qui s'appelle Homo Ludens pour homme qui joue.
Homme ludique, oui.
Homme qui joue. Alors, justement, ce groupe se penche sur la socialisation, la communication dans les jeux vidéo, c'est bien ça?
Absolument, oui.
Alors, le renard de la fable, M. Perraton, c'est de la ruse ou de la triche ou un peu des deux ou ni l'un ni l'autre?
À mon souvenir, parce que nous n'avons pas travaillé sur cette fable pendant le colloque, mais à mon souvenir, je pense qu'il a utilisé surtout de la ruse. Il a utilisé...
Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage et ainsi de suite...
Oui, il a travaillé l'orgueil de ce corbeau là, mm-hmm. qui, prêt à se faire applaudir, en a perdu l'étreinte nécessaire pour garder le fromage en bouche.
Pourquoi c'est de la ruse et pas de la triche? Qu'est-ce qui différencie les deux?
D'abord, c'est un rapport à la règle. Le rapport varie selon qu'il s'agit de ruse ou de triche.
C'est-à-dire?
Dans la ruse, on maximise les possibilités qu'offre la règle, alors que dans la triche, on transgresse la règle.
Est-ce que c'est un signe d'intelligence dans les deux cas? Ça veut dire qu'on a bien compris la règle, qu'on sait comment jouer avec ou comment en faire fi?
Il est certain que ça oblige de faire un travail mental d'anticipation sur ce que l'autre fera comme geste à la suite de celui qu'on s'apprête à commettre. Mais c'est le propre de la ruse que de faire appel à l'intelligence, à la mémoire, à l'imagination, c'est-à-dire accomplir un coup qui n'était pas prévu, mais qui était possible.
Et c'est le propre de l'homme, parce que là, on parle d'un corbeau, d'un renard, les animaux peuvent être rusés.
Oui, les animaux sont rusés. Les chasseurs en savent quelque chose. Quand ils courent après leur proie, ils se rendent compte qu'ils sont capables de ruses également pour échapper aux ruses du chasseur.
Alors justement, dans le cadre de ce colloque, il y avait une des communications qui portait sur la chasse, sur comment on utilise la ruse pour leurrer l'animal lorsqu'on chasse. Il y avait également une foule d'autres thèmes dont on a parlé, entre autres, bien sûr, le jeu sous toutes ses formes, les jeux de table, la loterie, les nouvelles plateformes électroniques, virtuelles, également les études supérieures. Alors, comme on est dans une université, j'aimerais que vous nous parliez, M. Perraton, du plagiat, de ce qu'on avait à dire sur le plagiat et sur la triche dans les universités?
Ben, le plagiat est un bel exemple où, effectivement, celui qui en use croit être du côté de la ruse, mais par le jugement qu'on porte sur ses actes, on se rend bien compte qu'on est davantage du côté de la triche. C'est-à-dire que pour des motivations personnelles, on compte transgresser les règles, faire avec la règle, de manière à en tirer profit. Alors, dans les universités, dans le milieu académique, on voit se répandre cette pratique facilitée par les moyens techniques actuels, la pratique du plagiat, c'est-à-dire de prendre...
Copier-coller, ben voilà, carrément.
La logique du copier-coller, si facile à faire, mais si lourde de conséquences.
Alors ça, c'est de la triche, c'est clair, parce qu'il y a une règle qui est transgressée. Est-ce qu'il y a, ouais, des cas où, par exemple, dans le sport, on ne sait pas trop si c'est de la ruse, de la triche? On, ouais, a évoqué ça également dans,
oui,
le cadre,
ben,
du
sport. Oui, justement, ce matin, là, on a passé quelques temps sur un cas Forsbury, le Forsbury Flop.
C'est-à-dire
qu'à Mexico, en 1968, un sauteur en hauteur est arrivé avec une nouvelle technique qui lui a permis de battre, d'être le meilleur, et qui a mis les juges, les arbitres, dans cette situation de se demander est-ce qu'il s'agit de la ruse ou de la triche. Et
qu'est-ce qu'il a fait précisément? Il a modifié le mouvement?
Oui, la pratique du saut en hauteur se faisait jusque-là dans
le
rouleau ventral, comme on le nomme, et il est arrivé avec une nouvelle technique, le rouleau dorsal.
Passer sur le côté, donc avoir la barre en dessous.
Oui, et cette technique porte le nom de son auteur, Forsbury Flop.
Et ça, c'était pas de la triche, par contre.
Les juges se sont posé la question. Ils sont allés relire les règles, et c'est le sens, c'est la force de la ruse, c'est de relancer le regard sur les règles. Alors, ils sont allés revoir les règles de près, et ils ont évalué que c'était tout à fait conforme aux règles. On maximisait les possibilités de la règle. On usait d'une manière de faire qui n'avait pas eu cours jusque-là. Et par la suite, pour rendre cette pratique sécuritaire, on a modifié un certain nombre d'éléments propices à la sécurité du saut, c'est-à-dire l'introduction du matelas plutôt que le saut dans le bac à sable, parce que cette technique n'était pas sans risque.
Alors justement, il y a un jeu de cache-cache entre la ruse, la triche et la règle qui est au centre, la règle qu'on va modifier au fur et à mesure que la ruse la pousse pour éviter de tomber dans la triche.
La ruse est un travail sur la règle. Effectivement, la ruse pousse les limites de la règle, et la ruse peut être justement l'effort de critique de la règle, parce que la règle peut, dans certaines circonstances, nous apparaître comme n'étant pas justifiée. Mais le tricheur coupe court à toute discussion, et lui, il fait de la règle son affaire personnelle. Alors, les motivations pour le tricheur sont différentes. Elles peuvent être personnelles, elles peuvent être religieuses, elles peuvent être politiques. Mais dans tous les cas, cette pratique appelle un jugement éthique, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas en train de remettre en question l'esprit même du jeu. Un jugement éthique, est-ce qu'on n'est pas en train d'être irrespectueux des autres? Esthétique, est-ce qu'on n'est pas en train de remettre en jeu l'esprit même du jeu? Et un jugement juridique, c'est-à-dire est-ce qu'on respecte ou pas la règle? Alors, c'est peut-être là la grande différence entre la triche et la ruse. La triche appelle un jugement. Et ce jugement, eh bien, c'est la mise à l'épreuve de la communauté, de nos actes.
On ne peut pas parler de ruse et de triche, M. Perraton, dans le contexte actuel où on a entendu parler de scandales financiers de toutes sortes, également de scandales politiques. La ruse, la triche dans ces domaines-là, est-ce que ce n'est pas toujours également à redéfinir? Et est-ce qu'on n'a pas l'épiderme de plus en plus sensible?
Oui. Il peut même arriver que, comment dire, donc, le jugement social ait une incidence sur le jugement juridique que l'on porte sur certains actes. La pression sociale finit par avoir raison des lectures qu'on faisait jusque-là des règles du jeu et amène une relecture, une correction aux règles du jeu.
Autrement dit, la ruse devient de la triche, carrément.
Là, je ne sais pas. Oui, certainement. Mais est-ce que c'est toujours de la ruse? Le tricheur se croit bien rusé. Lorsqu'il se fait prendre, il a moins cette certitude.
Justement, la ruse, c'est OK, en conclusion, on peut dire, M. Perraton, mais la triche, non?
Peut-être. On pourrait dire ça comme ça. Mais la triche, elle est, pour autant qu'elle n'est pas perceptible, elle a cours, elle est bien utilisée, c'est certain. Là, il faut être vigilant, disons.
Alors, ces discussions-là vont se poursuivre cet automne également, il faut le dire, dans le cadre d'un colloque sur les jeux vidéo en ligne, oui. Où il y a beaucoup de ruses, beaucoup de triches et beaucoup d'arnaques aussi, vous l'évoquez.
Oui, hein. Et on prépare une publication sur la question.
Mais je vous remercie beaucoup, M. Perraton.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Et je rappelle donc, M. Perraton, que vous êtes professeur au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal. Merci d'être venu.
Merci.
Les femmes et les hommes ne navigueraient pas tout à fait de la même manière sur Internet. C'est ce qu'a trouvé Manon Arcan, professeure au département de marketing de l'Université du Québec à Montréal. Un groupe de 109 sujets devait accomplir des tâches sur le web, comme trouver l'information pour un prêt hypothécaire, chercher un vol d'avion ou encore acheter un DVD. Plus les hommes possédaient de l'expérience de navigation, plus ils accomplissaient ces tâches avec brio. Mais chez les femmes, l'expérience n'influait pas sur la réussite des tâches. Manon Arcan avance l'hypothèse que les femmes établissent davantage de liens mentaux et auraient peut-être une mémoire plus raffinée, ce qui réduirait le besoin de pratique.
Alors, pendant qu'à Montréal, on atteignait cette semaine des sommets de connaissances sur les marchés mondiaux, le prix de l'or, lui, s'élevait dans les hautes sphères des cours de la bourse. L'once a même fracassé des records, de quoi réjouir les investisseurs avertis et les producteurs d'or, et peut-être de quoi aussi donner plus de travail aux scientifiques, ma chère Gaëlle.
Ben oui, probablement. En tout cas, ceux qui s'intéressent au secteur minier, après tout, plus l'exploitation minière prospère, plus elle produit de déchets potentiellement dangereux, et plus les chercheurs doivent redoubler d'ardeur pour trouver des façons de minimiser ces impacts-là, ces effets néfastes. C'est ce que tentent de faire nos deux invités, Michel Aubertin et Gérald Zaguri, qui sont tous les deux chercheurs à l'École polytechnique de Montréal. Bonjour. À tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Aubertin, vous êtes titulaire d'une chaire de recherche en environnement et gestion des rejets miniers et vous présidiez un colloque à l'ACFAS qui s'intitulait « Où en est-on en 2010 sur la gestion des rejets miniers ?» Alors, en 2010, est-ce que vous avez... Quel mal avez-vous à concilier environnement et gestion des rejets miniers ?
En fait, le titre signifiait qu'on avait l'intention de démontrer le chemin parcouru au cours des 20 ou 25 dernières années. Et ce chemin, il est grand parce qu'il y a eu effectivement de grands progrès dans le domaine, en partie relié à une législation qui est de plus en plus resserrée, plus ciblée, et aussi parce que la technologie a beaucoup évolué. Et l'industrie a adopté ces technologies rapidement pour solutionner des problèmes qui souvent étaient reliés à d'anciens sites, d'anciennes exploitations, pardon. Alors que maintenant, on peut se concentrer de plus en plus sur les nouvelles opérations qui sont sur le point d'ouvrir.
Et quels sont les problèmes spécifiques auxquels vous vous attaquez?
D'un point de vue environnemental, le problème sans doute le plus préoccupant et qui a été historiquement beaucoup étudié, c'est celui du drainage miniacide. C'est lorsqu'on expose aux conditions naturelles des minéraux réactifs comme la pyrite, la pyrotite, des sulfures de fer qui réagit avec l'oxygène et l'eau et qui peut produire des effluents acides. Et cette problématique-là existe depuis longtemps, mais les solutions étaient peu ou mal connues. Et on a développé au cours des 20 dernières années ou à peu près des technologies pour contrôler ce problème-là. Mais il fallait d'abord s'attarder aux anciens sites qui avaient un passif environnemental et dont on ne s'était pas suffisamment occupé. Maintenant, on peut se concentrer sur qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour les nouvelles opérations.
Est-ce que c'est réglé, ça? On dit qu'il y a des centaines de sites de mines abandonnées au Québec par des industries délinquantes.
Bien, en fait, il n'y a pas un si grand nombre de sites. Il y a plusieurs sites d'exploration, de tout petits sites, là, mais au niveau des sites d'exploitation, il y en a très peu. Et les principaux sites problématiques sont très bien connus et ils ont été l'objet ils font l'objet actuellement de travaux de restauration et ils sont souvent sous la responsabilité du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Et donc, du côté des anciens sites, il y a eu évidemment beaucoup d'investissements qui ont dû être faits pour restaurer ces sites-là, mais il en reste très peu. Ça, c'est la bonne nouvelle, le travail est presque complété ou en grande partie complété.
Alors, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Bien, ce qu'on sait, c'est que pour stopper ces réactions d'acidification, il faut empêcher qu'elles se produisent. Donc, à l'origine, c'est l'interaction entre les minéraux eux-mêmes, les minéraux sulfureux, l'oxygène de l'air et et l'eau qui est le véhicule. Et donc, lorsqu'on réussit à s'attaquer à cette interaction, par exemple en bloquant le passage de l'oxygène, on peut réussir à stopper les réactions. Un exemple, c'est de mettre les rejets sous l'eau. Sous l'eau, il y a très peu d'oxygène de disponible. À ce moment-là, on bloque littéralement le passage de l'oxygène. On peut mettre aussi d'autres types de couvertures qui bloquent le passage de l'oxygène ou de l'eau. Et à ce moment-là, on interrompt les réactions d'oxydation.
Ça paraît a priori très simple. On a mis 20 ans pour arriver à ça?
Effectivement, ça paraît simple, mais en pratique, c'est assez complexe parce que, ne serait-ce que par l'ampleur des sites, lorsqu'on regarde un parc à résidus miniers, par exemple, ou une halle d'astéril, souvent, c'est d'une dimension impressionnante. On parle de plusieurs dizaines ou quelquefois des centaines d'hectares.
La halle d'astéril, c'est là où on met toute la roche qui sert à rien.
Exactement. C'est la roche qu'on extrait pour atteindre la zone minéralisée. Et le parc à résidus, ce sont les rejets du concentré, les rejets de concentrateurs, et qui sont généralement d'une granulométrie beaucoup plus fine. Et dans les deux cas, la restauration implique des travaux sur une très grande échelle avec un contrôle fin de la migration de l'eau et de l'oxygène. Donc, le défi était considérable, mais on a fait énormément de progrès. Aujourd'hui, on a la preuve que ça fonctionne.
Et vous dites maintenant, on est capable de travailler en amont, peut-être, pour l'installation de sites nouveaux d'exploitation minière?
Absolument, parce que maintenant, on comprend très bien les processus qui vont produire ces eaux acides et les autres types d'eau contaminée, de sorte qu'il est beaucoup plus facile de se prémunir contre le problème, donc d'agir en amont, justement, et de faire en sorte que la mine planifie dès le départ l'ensemble de ses opérations en fonction de l'opération et de la fermeture. C'est vraiment beaucoup plus efficace à tous les points de vue.
À tous les points de vue. Alors, une des techniques, vous avez parlé de recouvrement, hein, M. Aubertin, hein, soit par de l'eau, soit par d'autres procédés. Une autre façon de traiter ce drainage minier acide, c'est d'utiliser des bactéries. Alors ça, c'est très écolo. Et M. Zaguri, c'est ce sur quoi vous travaillez. Comment ça fonctionne, ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces bactéries-là?
Alors, en fait, il faut distinguer les techniques de contrôle, de prévention du drainage mini-acide, dont mon collègue, le professeur Aubertin, a fait mention, qui sont des techniques qui sont mises en place pour empêcher la génération donc, d'eau acide. Et il y a des techniques de traitement de l'eau, c'est-à-dire une fois que la génération d'acide a commencé, on se retrouve avec des effluents qui contiennent des métaux et des sulfates, de l'acidité. À ce moment-là, on peut utiliser des bactéries en fait, qui vont utiliser ces sulfates. On va leur donner de l'énergie en leur rajoutant de la matière organique. Et pour ce faire, on peut utiliser des déchets d'autres industries ou des déchets municipaux, du compost de feuilles, du fumier de volaille, de la sciure de bois. Ces bactéries vont consommer cette matière organique et en produisant de l'énergie, en fait, cette énergie va être captée par les sulfates qui sont aussi problématiques dans les effluents. Ces sulfates vont être transformés en d'autres substances, des sulfures, qui vont fixer les métaux et donc précipiter au fond du réacteur de façon à enlever les métaux et les sulfates qui étaient dans l'effluent, donc qui étaient problématiques. Et en même temps, en consommant la matière organique, ces bactéries vont générer de l'alcalinité, ce qui va faire augmenter le pH, donc diminuer l'acidité de l'effluent. Et donc, on se retrouve avec un effluent qui contient plus de métaux, plus de sulfates et avec un pH qui est acceptable, qui ne cause pas de dommages lorsque c'est rejeté dans l'environnement.
Et c'est une belle mixture, ça, du compost, des bactéries et des rejets miniers.
Oui, c'est une belle mixture. Le défi, c'est de pouvoir retrouver à proximité des parcs à résidus miniers qu'on va retrouver donc en région éloignée, disons en Abitibi, des endroits, des municipalités ou des activités qui vont pouvoir générer ces déchets organiques. Et à ce sujet, je peux juste mentionner une anecdote que hier, on a une compagnie, il y a une présentation sur la restauration d'un site pour une mine qui vient de commencer ses activités, en fait, et on prévoit déjà les activités de restauration pour cette mine-là. Et cette compagnie minière a décidé d'acheter le compost d'une municipalité, Val d'Or, pendant une période de 5 ans pour être sûr d'avoir l'approvisionnement qu'il faut pour faire la restauration.
Compost. Donc, c'est vraiment une technique qui a besoin d'être intégrée dans le processus avant même que la construction de la mine commence.
Tout à fait. En fait, il faut mentionner que l'héritage, les images qu'on voit beaucoup à la télévision des anciens parcs à résidus très spectaculaires avec des paysages désertiques, c'est vraiment l'héritage du passé à des moments où la réglementation n'était pas aussi stricte qu'aujourd'hui. depuis 1995, avant de commencer l'exploitation d'une mine, dans les processus même d'obtention des permis, il faut déposer un plan de restauration, donc c'est-à-dire déjà montrer comment on va procéder à la gestion des rejets miniers, comment on va procéder à la restauration du site une fois que les activités seront terminées. Et donc, déjà à cette étape, il faut prévoir les techniques qui vont être mises en place, dont par exemple le traitement passif.
À cela, j'ajouterais qu'il faut également fournir une garantie financière. Alors maintenant, les entreprises doivent mettre de côté les sommes requises pour restaurer les sites, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est ce qui a causé en partie les problèmes qu'on retrouve encore aujourd'hui pour les anciens sites.
Encore faut-il qu'elle paye cet argent parce qu'il y a eu des cas où apparemment c'était pas nécessairement le cas. Mais pour revenir aux bactéries, est-ce que c'est déjà en application quelque part?
Oui, en fait, c'est des systèmes qui sont en application. Il y a une application, quelques applications aux États-Unis, une application aussi au Royaume-Uni et deux applications ici au Québec. Et il y a quelques-unes à travers le monde. Le défi, c'est de pouvoir faire fonctionner ces systèmes passifs parce que ça ne nécessite pas de pompage et d'activité humaine importante. Le défi, c'est de les faire fonctionner à long terme et de s'assurer que lorsque les métaux ont été enlevés, ils sont dans le système, qu'ils restent dans le système sous une forme stable et qu'ils ne sont pas remis en solution pour se retrouver de nouveau dans les effluents.
Oui, et d'imaginer une mine où une fois que l'industrie est partie, on peut la laisser comme ça et que la nature reprenne ses droits.
Alors là, il y a des exigences maintenant dans la réglementation de suivi sur des périodes qui peuvent s'étendre jusqu'à 20 ans. Après la fin des activités minières, et donc selon le type de rejet, selon le type de système de traitement qui sont mis en place, il y a des exigences de suivi réguliers pour s'assurer que les effluents respectent toujours les normes, en fait.
J'ai envie de vous demander, messieurs, en terminant, est-ce que vous imaginez la mine au rejet zéro? Est-ce que vous rêvez la nuit d'une industrie minière sans pollution?
De par sa nature, une mine, c'est une source de rejet, mais l'objectif, c'est de réduire l'empreinte en surface et une façon d'y parvenir, c'est de retourner la plus grande proportion de ces rejets sous terre. Et c'est ce qu'on fait actuellement.
De les réinjecter dans les galeries.
De plus en plus, on s'en sert comme remblayage souterrain. Et ça, c'est une façon très efficace de réduire l'empreinte en surface. Et sous terre, on sait que les réactions que j'ai mentionnées plus tôt n'ont pas la possibilité de se développer. Et donc, on réduit beaucoup les problèmes potentiels environnementaux.
La mine de rejet zéro existera lorsqu'on n'aura plus de bagues en or, plus de diamants, plus de lithium dans les batteries d'ordinateurs. À ce moment-là, on atteindra la mine de rejet zéro.
C'est un message politique dans cette émission scientifique. Merci beaucoup, monsieur.
Merci beaucoup, Gaëlle. Donc, je rappelle que vos invités étaient Michel Aubertin et Gérald Zaguri, qui sont tous les deux professeurs à l'École polytechnique de Montréal. Merci, messieurs.
Merci.
J'ai maintenant le plaisir de vous présenter une employée de l'ACFAS qui parle de science, ben, comme tous les employés de l'ACFAS évidemment, mais qui parle de science comme on ne le faisait sûrement pas au temps de Marie Victorin, le digne cofondateur de l'ACFAS dans les années 1920, ni même au temps de mes premiers congrès de l'ACFAS dans les années... ni même, ma chère Gaëlle Lucia Berdou, au temps de votre premier congrès de l'ACFAS. Alors cette personne que je vous présente s'appelle Julie Dirvimer. Et elle fait de la poésie scientifique et dans une forme très moderne, le slam. Julie, bienvenue à l'émission.
Merci.
Vous allez nous parler de quoi?
De microbes. Alors, j'espère que ça vous fait peur.
On y va.
On va tous mourir. Vous êtes majeur et vacciné. Je veux pas vous bassiner, mais à l'intérieur de la ville, rien n'est vraiment stérile. Rien de plus facile que de choper des bacilles. Sur les barres d'autobus, il y a des rétrovirus. La diphtérie à la station Berry. Il y a des mouches dans tes raviolis et tabarnouches dans ton maple leaf, partout. Il y a des streptocoques. What the fuck? On n'est rien qu'une autre espèce. Va bien falloir qu'on disparaisse. Toutes les bêtes sur cette planète ont toujours disparu comme elles sont apparues. Alors je vois pas par quelle vanité l'homme croirait à son éternité. Garde tes macrophages dans les parages, parce qu'on va tous se filer les microbes les plus laids. Salmonella est là. Pseudomonas te menace. Enterococcus maloratus, papilloma virus, spuma virus, lactococcus lactis, hémophilus, vaginalis, legionella, pneumophila, chlamydia, trachomatis, brucella, meltensis, rotavirus, herpès, on va tous mourir. Mais faisons-le avec le sourire. Faut bien qu'on continue à vivre, alors faisons ce qui va suivre. Refilons-nous nos microbes tout autour du globe. Faisons l'amour sans aucun détour. Refile-moi tes MST. J'aurai une raison de te détester. Mais en attendant, pour le bien de l'humanité, pense à te brosser les dents. L'homme est un pouls pour l'homme et pour l'humanité. Sors tes lymphocytes contre l'hépatite C, parce qu'on va tous se filer les microbes les plus laids et le virus HIV, histoire de s'entrachever. Je veux pas vous mettre l'alerte, mais on porte en nous notre perte. On est notre propre poison, notre propre prison. Plus l'homme grandit, plus il meurt. Ton agresseur, c'est ta sœur. L'homme est un pouls pour l'homme et pour l'humanité. De toute façon, il n'y a pas de vaccin contre les assassins. On creuse notre tombe avec des bombes, alors que ce soit par bactéries ou bien par conneries. On se fera tous harakiri. On s'auto-tue. Tu comprends-tu? On va tous mourir. N'essaie pas de te dérober, tu te feras toujours microber. L'homme est un pouls pour l'homme et pour l'humanité. Tu penseras à ça demain, puis tu n'oublieras pas de te laver les mains.
Merci beaucoup, Julie. Merci. Le président de l'ACFAS, qui est ici présent, approuve votre façon de parler de la science. Merci beaucoup, Julie. Eh bien, au moment où vous écoutez cette émission, le dimanche 16 mai, le laser célèbre très exactement ses 50 ans. Une petite jeunesse, finalement, dis-je pour faire du slam scientifique moi aussi.
Bravo.
Parce qu'au moment où nous enregistrons cette émission, Sophie-André Blondin, un colloque sur le laser, vient de se terminer à l'ACFAS.
Oui, les réjouissances sont de mise aussi, puisque vendredi, à l'École de technologie supérieure, on souligne l'anniversaire du laser. Laser, d'ailleurs, qui est un acronyme.
Oui.
Et qui veut dire Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Bravo.
Voilà, je l'ai dit une fois, je ne le dis plus, on va utiliser laser. Le laser, donc, né le 16 mai 1960 dans le laboratoire californien de Theodore Mainman. Il s'agissait d'un rayon rouge généré avec un cristal solide de rubis. Rouge, je ne suis pas sûre d'ailleurs, on va demander à notre invité. Mainman a tenté de publier son résultat dans la revue Physical Review Letters, qui a refusé son article, et c'est la revue Nature qui, trois mois plus tard, a finalement publié les résultats de ces travaux-là et la naissance du laser, d'abord considéré comme un outil de recherche fondamental, donc seulement intéressant pour les laboratoires. Pourtant, 50 ans plus tard, le laser, il est partout. Il a permis de mesurer la distance Terre-Lune. On le trouve dans les CD, les DVD, on le trouve dans les salles de spectacle, dans les salles de dans les salles de classe avec les pointeurs. Le laser, on le voit même dans notre soupe, où en fait, c'est le laser qui voit notre canne de soupe quand on passe à la caisse enregistreuse, à l'épicerie. Alors, pour nous raconter le laser, pour nous l'expliquer, pour nous aider à entrevoir l'avenir, j'ai invité Jean-Claude Kieffer. Il est directeur à l'INRS Énergie, Matériaux et Télécommunications. Monsieur Kieffer, bonjour.
Bonjour.
Vous arrivez donc de ce colloque consacré au laser dans la très savante, dans les très savants colloques sur la photonique.
Oui, c'est ça.
Et l'optique. Il y a 50 ans, ce petit rayon rouge, je dis un petit rayon rouge, peut-être qu'il n'était pas petit, peut-être qu'il n'était pas rouge, le rayon. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans dans le laboratoire?
Ben, c'est une expérience fascinante, mais la gestation était difficile et longue, parce que ça commence en 1917 avec la théorie sur l'émission stimulée avec Albert Einstein. Et il faut attendre une quarantaine d'années avant que l'idée émerge du laser, enfin du pompage optique avec Alfred Kastler au début des années 50 et du laser à la fin des années 50. Donc c'est une longue gestation conceptuelle Et avec cette extraordinaire réalisation, dans la nuit du 16 au 17 mai, c'est toujours dans la nuit que ça se passe.
Oui, la nuit porte conseil.
1960, et effectivement, ce qui est une réalisation qui est la conjonction à la fois d'une science complexe, parce que c'est les populations de niveau atomique, et d'une ingénierie astucieuse et remarquable qui fait que Theodor Maiman crée un outil qui va être reproduit et reproductible et qui va se diffuser assez rapidement.
Cet outil, le laser, c'est une lumière, mais il faut la différencier des lumières issues de sources thermiques, parce que c'est une lumière qui a des caractéristiques très particulières. Pouvez-vous nous l'expliquer?
Alors, la différence de l'ampoule, qui éclaire un peu dans toutes les directions, le laser éclaire dans la direction dans laquelle le rayonnement est effectivement stimulé, donc c'est une direction, vraiment, c'est une seule direction. Et ça fait qu'on peut l'utiliser pour mesurer des distances, pour éclairer au lointain. Donc c'est quelque chose en termes de caractéristiques de la lumière qui est très spécial, parce que c'est une couleur, une longueur d'onde. C'est aussi éventuellement des impulsions. Donc c'est pas nécessairement continu, ça peut être pulsé. Donc c'est une variété, c'est une source de lumière très différente et qui est tout à fait nouvelle, que l'on ne trouvait pas dans la nature. Donc une fois de plus, c'est le résultat de la mise hors équilibre de la matière. C'est-à-dire, c'est la mise en forme de la matière pour faire la lumière. Et aujourd'hui, on utilise la lumière pour mettre en forme la matière.
Alors, la boucle est presque bouclée, mais comme ça, il y a des cycles. J'imagine qu'on va recommencer. Mais il y a 50 ans dans ce laboratoire, la gestation, vous l'avez dit, M. Kieffer, a été longue. On se retrouve, on a réussi. On a émis un rayon laser. Est-ce qu'on sait, il y a 50 ans, à quoi ça peut servir?
Alors, non, parce que c'est pendant de très nombreuses années, le laser a été considéré comme une solution qui cherchait un problème. Et en fait, il y a une explosion des lasers sur quelques années. Et puis, le laser devient petit à petit un outil qui va répondre à des besoins. Ça devient un outil pour la production d'énergie. Très rapidement, on réalise qu'on peut l'utiliser pour essayer de produire la fusion thermonucléaire. Puis, on mesure des distances. Puis, on commence à l'utiliser. Effectivement, aujourd'hui, il imprime, il coupe, il marque, il soude, il fait tout. Mais surtout, on le trouve dans les hôpitaux. Et les applications médicales sont une grande...
Et c'est là que ça vous intéresse comme recherche, parce que le laser n'a pas fini de trouver ses problèmes. Cette solution laser n'a pas fini de trouver les problèmes qu'elle peut régler.
Effectivement. Donc, à l'INRS, on célèbre les 40 ans de laser à l'INRS. Et on le fait le lundi. Mais c'est une occasion de souligner qu'on a utilisé le laser dans diverses directions, et en particulier pour toutes les applications médicales, et où on a rentré le laser chez les utilisateurs, chez les médecins, que ce soit pour découper les yeux, que ce soit pour produire des particules pour la radiothérapie ou la protonthérapie, ou des sources secondaires de lumière.
Et on réussit à concentrer les usages. En fait, jusqu'à maintenant, le laser est très unidirectionnel, mais ses applications sont multidirectionnelles, ça va un peu partout. Dans le domaine médical, par exemple, on est en train et on a réussi à concentrer des applications pour que le même appareil, ou presque, puisse faire à la fois l'imagerie, le diagnostic et, qui sait, la chirurgie. Donc, on a beaucoup simplifié la machine.
Oui. Alors, le laser permet de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu la multimodalité. C'est-à-dire, on peut imager, puis découper ou faire une thérapie en même temps. Et donc, c'est un peu un paradigme où on fait la thérapie et on regarde ce que l'on fait simultanément. En chirurgie de l'œil en particulier, c'est un outil extraordinaire qui a eu des développements fabuleux. En particulier, les lasers ultra courts qui sont de plus en plus intenses, mais de plus en plus courts. Donc, les lasers vont effectivement dans toutes les directions, même si le rayonnement est très directionnel.
Ça, c'est pour le domaine de la santé. On les retrouve dans le domaine de la défense et même encore dans le domaine de la recherche fondamentale. On est dans le petit laser pour les applications au quotidien, mais dans le plus gros, le plus puissant, la big science dans les laboratoires.
Oui, et effectivement, il y a de plus en plus de projets qui sont démesurés, enfin, qui sont énormes. On fait intervenir des gros systèmes. Mais le laser est aussi un outil d'intégration de toute petite dimension qui peut s'intégrer dans des plus gros systèmes. Donc c'est un outil qui est multiple, c'est intéressant.
Et il y a un exemple de recherche fondamentale qu'on fait avec le laser en ce moment où on fait intervenir le vide. Expliquez-nous cet avenir possible du laser.
Alors, il y a un projet en Europe qui s'appelle Extreme Light Infrastructure. Et l'idée, c'est de concentrer la lumière jusqu'à des intensités extrêmes. On parle d'aller à des intensités de 10-23, 10-24 watts par centimètre carré. Donc, c'est des puissances fabuleuses. Et un des objets, c'est éventuellement de faire bouillir le vide.
Ah bon?
Donc, c'est d'étudier la mécanique quantique. Ben oui, le vide peut bouillir, mais il faut y mettre le prix en termes de photons, d'intensité. Et donc, c'est de comprendre un peu les origines un peu de notre univers et de voir un peu où on peut aller avec le vide et avec cette mécanique quantique qui nous intrigue.
Dans le même esprit que les accélérateurs de particules, d'une certaine façon.
Alors, c'est peut-être un futur pour les grands accélérateurs de particules. Jusqu'où une société peut-elle aller en termes de dimension d'accélérateur ? Le laser est certainement intéressant parce qu'il peut ramener les accélérateurs à des dimensions humaines. Donc ça fait partie du futur des lasers.
Alors ça, c'est le grand futur. D'ici là, il va continuer à avoir des applications très concrètes, très, 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 très pratiques dans nos vies.
Ben, le laser est dans notre vie de tous les jours, donc... Il va continuer à y rester.
Du CD, du DVD, le Blu-ray aussi Blu-ray, maintenant, ouais, à la caisse enregistreuse. Et probablement même que les vêtements qu'on porte ont pu être découpés au laser dans l'industrie.
Absolument.
Il y a du laser partout, finalement. Il y en aura même dans le vide, peut-être. Merci beaucoup, M. Kiffer.
Avec plaisir.
Oui, laser de rien, c'est important. Alors, je rappelle le nom de votre invité, Sophie André, Jean-Claude Kiffer, qui est directeur de l'INRS Énergie, Matériaux et Télécommunications. Merci beaucoup, M. Kiffer.
Merci. Merci beaucoup.
Les commotions cérébrales, même si elles entraînent rarement des séquelles visibles chez la victime, auraient un effet à long terme sur l'odorat. C'est ce qu'a trouvé la chercheuse Vanessa Charland et son équipe de l'Université de Montréal. Ils ont fait sentir toutes sortes d'odeurs à 27 joueurs de football de l'équipe des Carabins. Certains avaient subi une ou plusieurs commotions au jeu, d'autres non. Les athlètes qui avaient perdu connaissance lors de leur commotion qualifiaient les odeurs moins intensément que les autres. Aussi, plusieurs mois après la commotion, la capacité à identifier des odeurs familières tendait à diminuer chez certains joueurs. La perte d'odorat serait une séquelle cachée des commotions qui s'ajoute au risque de souffrir éventuellement de dépression.
Le congrès de l'ACFA, c'est le lieu où beaucoup de chercheurs présentent beaucoup de résultats de recherche, on le sait, mais c'est aussi le moment où l'on réfléchit sur la recherche, sur son organisation, puis sur le métier de chercheur. Et c'est ce qu'on a fait, entre autres, mercredi, dans un colloque fort intéressant sur les conflits d'intérêts. Le sujet est à la mode par les temps qui courent en politique, on le sait, mais la question n'est pas très souvent mise au grand jour quand on parle de recherche. Pourtant, elle est présente, en filigrane en tout cas, dans bien des domaines. En fait, elle touche potentiellement, on l'a vu dans cette journée de réflexion, à peu près tous les professeurs-chercheurs. Alors, pour parler de conflits d'intérêts, et je vous le dis tout de suite, ils ne sont pas eux-mêmes en conflit d'intérêts en venant l'émission, bien sûr. J'ai invité deux personnes qui ont pris part à cette journée. D'abord, l'organisatrice de ce colloque, l'anthropologue Béatrice Heizerman du Centre de santé et services sociaux de la Vieille Capitale à Québec. Bonjour, madame.
Bonjour.
Vous êtes, où vous coordonnez un comité d'éthique de la recherche, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Et le bioéthicien Bryn Williams-Jones du département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai dit le mot médecine dans votre attachement, dans votre port d'attache. Et tout de suite, quand on parle de médecine, on pense à l'industrie pharmaceutique ou à la recherche biopharmaceutique et aux relations, disons-le, délicates entre les chercheurs de ce domaine et cette industrie. Alors, M. Williams-Jones, est-ce qu'il y a dans ce domaine particulier et très bien financé de la recherche clinique autant de conflits d'intérêts qu'on l'imagine?
Beaucoup plus que vous imaginez.
Plus?
Oui.
Ça va bien.
C'est un contexte où il y a énormément d'argent en jeu. Et dépendant sur la situation, sur le contexte, si on parle d'un essai clinique, par exemple, on peut parler des centaines de millions de dollars investis dans la recherche, dont la possibilité qu'il y ait des intérêts, soit financiers ou d'autres, qui aient un impact sur le processus de la recherche biomédical.
On a des exemples de ça?
Des exemples classiques, c'est le médecin qui est à la fois chercheur et qui est payé pour recruter ses patients.
Oui.
500 $, 1 500 $ par patient. On parle de « by head ». C'est un contexte où le médecin peut gagner plus en recrutant des patients pour une compagnie pharmaceutique dans laquelle il fait la recherche que son propre salaire comme médecin. Ça, c'est un intérêt carrément classique. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qui commence à être assez bien géré par la communauté médicale. Ils reconnaissent qu'il y a des énormes problèmes, qu'il y a peut-être des dangers importants pour les patients et pour le type de recherche qui est faite.
On a l'impression que c'est presque une fatalité, que c'est inévitable d'avoir des conflits d'intérêts de ce genre-là en biopharmaceutique.
Peut-être. La question plus importante, c'est comment est-ce qu'on gère ces conflits d'intérêts.
Bien sûr, oui.
Est-ce que la communauté scientifique fait attention à ça? Est-ce qu'ils pensent que c'est important? Et on commence à voir exactement cette reconnaissance intéressante à part les étudiants. Donc, l'American Medical Student Association est en train de faire des évaluations des politiques de conflit d'intérêts des écoles de médecine américaines et donc de donner un cote de A à F sur leur politique.
Et il n'y a pas beaucoup de cotes A, je pense.
Hein? Pas beaucoup.
Non? Mais il y a des F?
Il y avait beaucoup d'F, mais pour préciser, si tu ne soumets pas ton politique à leur évaluation, tu avais évidemment un F.
Oh, oui, c'est ça.
Donc, on peut questionner ce mécanisme si c'est suffisant, mais oui, il y a des faiblesses. J'ai des étudiants qui ont étudié cette politique, ils ont identifié des faiblesses importantes, mais au moins, c'est une place de départ.
Et ce qui est important, vous l'avez souligné pendant le colloque, c'est que les conflits d'intérêts, ce n'est pas une question, seulement une question de gros sous. Il y a d'autres dimensions à ce conflit d'intérêts, la carrière, etc., quand même.
Bien sûr. Donc, moi, comme professeur, j'ai toutes sortes d'intérêts, soit personnels, le succès de mes étudiants peut être un intérêt qui cause peut-être des conflits importants. Donc, si je pousse mes étudiants dans une certaine direction, si je promote mes étudiants envers d'autres d'une façon qui va au-delà de leurs vraies compétences, ça pose un problème.
Mais vous ne faites pas ça, vous?
Non, j'espère pas. À la même temps, j'ai un intérêt fort qu'ils réussissent dans leurs études, qu'ils progressent à d'autres choses.
Mais ça, c'est normal.
C'est normal. Mm-hmm. Et ce qui est difficile de se faire cet équilibre entre ce qui est normal, qui est d'aider quelqu'un d'autre à développer leurs compétences, et quand ça devient un intérêt propre à moi, qui pose des problèmes pour mon jugement, pour mon objectivité et pour la manière que je guide cet étudiant, par exemple, ou pour la manière que je fais la recherche.
Mm-hmm. Béatrice Azerman, on est en terrain miné du côté de la recherche biomédicale. Tout le monde le sait un peu. Du côté sciences naturelles aussi, parce qu'il n'y a pas que la biomédecine. Mais on en a parlé, d'ailleurs, la moitié du congrès était consacrée à ça. Et ça, c'était un peu étonnant. On est aussi dans des domaines un petit peu difficiles, disons-le comme ça, du côté des sciences sociales. Quel genre de conflit d'intérêts on a en sciences sociales?
Alors, je commencerai par dire que si, en biomédecine, ça a l'air d'être très, très clair, parce qu'il y a les compagnies pharmaceutiques, il y a les entreprises privées aussi, ça l'est beaucoup moins en sciences sociales, ou on s'en doute moins. Ce qu'il est ressorti du colloque hier, enfin de l'activité, c'est qu'il y a un virage qui a été pris il y a environ une vingtaine d'années sur les financements eux-mêmes, c'est-à-dire que les financements ne sont plus pour aider ces chercheurs qu'on appelait un peu avec une dimension 19e siècle, le chercheur qui cherche pour la science.
Oui.
Mais plus avec un intérêt économique. Donc, il y est aussi. Alors, les conflits d'intérêts en sciences sociales vont être beaucoup plus dans le domaine politique, finalement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un intérêt nécessairement financier, il y a aussi, il faut avoir sa subvention, c'est sûr. Mais le chercheur lui-même, sur son terrain, va être pris dans des enjeux politiques. Le sujet de sa recherche, par exemple. Et quand je pense à ça, je pense qu'on a eu des communications de personnes qui travaillent à l'international.
Oui.
Et là, le problème qu'il y avait, c'est qu'ils étaient pris. Bon, le chercheur a un pouvoir supérieur par rapport à la population étudiée, mais c'est une façon de voir les choses.
Oui.
Bon, le chercheur doit se positionner. Il y en a une autre, elle a été prise comme une alliée, puis finalement comme une espionne, et puis on l'a exclue, on l'a inclue dans sa recherche, dans sa donnée de recherche. C'est-à-dire que tout ça peut influer sur ce qu'on appelle le recrutement des participants, sur les données aussi.
Oui, oui, bien sûr.
Et on est au centre de tout ça.
Parce que c'est étonnant, justement, donc en sciences sociales, c'est des sciences plutôt pauvres en général.
Oui.
Hein. Il n'y a pas des gros sous, c'est le parent pauvre. Et même là, donc, ce n'est pas une question seulement d'argent, de dollars ou d'euros, là, c'est autre chose.
C'est autre chose, parce que justement, si c'est plus prévisible, entre guillemets, dans le biomédical, c'est plus ce qui est apparu hier, ce que j'ai vu, moi, en tout cas, c'est beaucoup plus la surprise quand on est sur le terrain. On imagine, bien sûr, on a travaillé sur ces contextes, mais quand on arrive, c'est la perception que les différents acteurs autour ont, et puis ça place le chercheur dans des situations parfois très, très inconfortables jusqu'à parfois être rejeté du terrain.
Mm-hmm.
Donc ça, ce sont sont des enjeux qui sont majeurs quand on pense à l'intégrité de la recherche ou aux données qu'on récolte simplement sur le terrain, puis après tout le travail du chercheur. Donc c'est des intérêts qui sont non négligeables parce qu'ils sont, très très présents. En
donc
fait,
il faut
ils
les
sont
regarder.
Constants.
C'est ça, ouais. Alors la question c'est bien sûr comment faire, hein, parce que ce qui ressortait aussi de ce colloque, c'est que en gros, on ne peut pas éviter, ça serait angélique de penser qu'on ne sera jamais dans un potentiel conflit d'intérêts. Qu'est-ce qu'il faut faire, Bwyn Williams-Jones, vous l'avez évoqué, réglementer, gérer les conflits d'intérêts? Par exemple, on disait on devrait interdire les essais cliniques financés par l'industrie pharmaceutique. Ça, est-ce que ça a du sens?
Pas du tout.
Bon, c'est clair.
C'est une question d'être à la fois réaliste, en disant si l'industrie pharmaceutique, par exemple, arrête de faire toute la recherche, qui va combler cette lacune? Est-ce que c'est le gouvernement? Je ne pense pas. À la même temps, c'est de mettre en place les balises pour éviter les grands problèmes et reconnaître quand il y a des conflits d'intérêts qui est gérable, de le gérer. La première, c'est de le reconnaître nous-mêmes, avoir l'humilité comme chercheur, de reconnaître qu'on peut être dans des situations où on est moins objectif qu'on pense. Et ça, c'est un des problèmes carrément psychologiques liés à la façon qu'on regarde la situation autour de nous, qu'on regarde nos intérêts et qu'est-ce qu'on fait.
Donc, c'est possible, éventuellement, et on commence, j'imagine. C'est ce qu'on disait aussi hier. Hein. Les gens commencent, dans les milieux universitaires, en tout cas, à se dire, il faudrait peut-être faire attention.
Exactement.
C'est ça, Mme Ezerman. Comment est-ce qu'on peut faire du côté sciences sociales? Est-ce qu'on a, là aussi, après 10-15 ans d'expérience, est-ce qu'on a moyen d'éviter les mauvaises surprises, comme vous le disiez?
Je ne pense pas qu'on ait moyen de les éviter. Je pense qu'on peut réfléchir dessus. À un moment donné, je pense que le chercheur sur son terrain commence à une connaissance finalement des acteurs et peut les gérer aussi lui-même. Après, ça dépend évidemment de la nature du conflit d'intérêts. En éthique de la recherche, il est recommandé de les dire, au moins de les divulguer. Tous ne sont pas non plus très importants, c'est-à-dire qu'ils sont inévitables, mais en même temps, en sciences sociales, on se rend compte que c'est aussi une façon de comprendre son terrain. Alors, je pense que ce qui serait très important, c'est d'avoir des espaces pour en parler, parce que les chercheurs, tous, même dans le domaine biomédical, sont très isolés par rapport à ces questions-là, parce qu'on n'en parle pas. Mm-hmm. On en parle peu, puis c'était le but de la journée d'hier.
De mettre ça sur la place publique. Alors, oui. ce qui est ressorti aussi de la rencontre, c'est qu'au centre de la question, il y avait l'évolution des universités et de la mission des universités, et aussi l'évolution de la recherche, l'évolution du métier de chercheur. On a parlé, je reprends des expressions, un glissement vers la recherche utilitariste, la marchandisation de la recherche. Bwyn Williams-Jones, est-ce que c'est vraiment ça qui est au cœur? Est-ce que c'est vraiment le changement?
Je pense que c'est partie de la oui. problème. Parce qu'on est dans un contexte où il y a une diversité de pression et d'intérêts en jeu d'une diversité d'acteurs. Comme professeur, je dois être chercheur, faire de l'administration, enseignant. Et à la même temps, il y a des pressions de l'institution pour la réputation de l'institution, de faire les communications de presse, de chercher de l'argent. Il y a tous ces éléments qui peuvent nuire à le pratique ou l'équilibre entre cette diversité de travail que j'ai besoin de faire d'une façon quotidienne.
Mmh, le professeur entrepreneur, par exemple.
Exactement. Dans cette situation, on doit être capable, comme Béatrice a bien annoncé, de discuter de ces éléments et de montrer nos inquiétudes. Et, à la même temps, être capable de l'accepter qu'il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas faire. Des fois, on est demandé trop de choses à faire. Mmh. Et ça peut nuire à le bienfait de nos divers travaux.
Madame Ezerman, on imagine le professeur entrepreneur en biopharmaceutique ou dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'informatique, etc. Dans le domaine des sciences sociales, comment est-ce qu'on peut être un professeur entrepreneur? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est quelque chose qui existe?
C'est quelque chose qui existe.
Ah, ouais?
Hier, il y a Gérard Duhaime en table ronde qui disait que le seul lieu où on faisait vraiment de la recherche en sciences sociales, je mets des guillemets à tout ça, c'était dans les départements de marketing.
Oui?
Oui, parce que par exemple, des anthropologues, des sociologues, ce sont des gens aussi qu'on va retrouver, qu'on peut retrouver dans le politique. Puis là, est-ce qu'ils ont le droit, oui ou non, d'influencer les politiques? Alors, l'entrepreneur, oui, on le voit, parce que les chercheurs doivent aussi trouver des subventions. Ça, c'est absolument pas différent en sciences sociales. Il faut amener de l'argent à son centre de recherche, quoi qu'il en soit, ou à son université. Ça change pas. Mm-hmm. Tout ce qu'a dit Bryn, ça se retrouve tout à fait en sciences sociales. Donc, oui, les entrepreneurs, on s'est posé la question plutôt dans le domaine politique.
Quelques mots de conclusion, parce que c'est un sujet, c'est un grand sujet qu'on a levé, qu'on a soulevé et qui va devoir continuer à être discuté. Mais est-ce que le risque de tout ça, on l'a vu aussi un petit peu pendant le colloque, c'est pas une perte de confiance du public envers les universités, les chercheurs, les experts? Je vous demanderai à tous les deux de réagir à ça. Donc, Monsieur Williams Jones.
C'est exactement le plus grand problème, c'est la perte de confiance publique et de la part de nos collègues, dont l'importance de reconnaître ça comme problème, les conflits d'intérêts, et d'essayer de le gérer, de ne pas cacher en arrière des politiques carrément vides qui essaient de limiter des choses, et plutôt de le discuter ensemble dans nos assemblées départementales, dans nos congrès, pour essayer de nommer le problème.
Mais quand vous le faites dans votre assemblée départementale?
On ne fait pas beaucoup.
Ça ne se fait pas beaucoup, hein, c'est ça. Et vous, Mme Ezerman, est-ce que vous croyez que ce n'est pas ça le grand risque?
Oui. Moi, j'ajouterais que... Oui, je suis tout à fait d'accord. Et j'ajouterais que le risque, c'est vraiment sur la recherche elle-même, parce que les chercheurs sont obligés de faire énormément de compromis pour faire leur recherche. Selon les secteurs, on le voit dans l'entreprise pharmaceutique, dans les recherches biomédicales. Comme par exemple, une personne, hier, c'était Marie-Hélène Parizeau, disait que les entreprises pharmaceutiques ne finançaient pas les maladies orphelines, par exemple. Parce qu'il n'y avait pas de marché. Alors, pour les sciences sociales, et même pour les sciences en général, c'est la recherche, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est un processus continuel de négociation avec des politiques, avec des entreprises? Quelle est la recherche elle-même? Comment elle peut évoluer de façon libre, quelque part? C'est la vision du 19e siècle dont on parlait hier. Mais est-ce qu'il y a une vraie place encore pour la recherche qu'on appellerait fondamentale sur le terrain?
Grande et fondamentale question.
Grande et fondamentale question.
Je vous remercie beaucoup dont vous êtes venue. Donc, Béatrice Ezerman du Centre de santé et de services sociaux de la Vieille Capitale à Québec, coordinatrice, entre autres, du comité d'éthique de la recherche qui travaillait sur l'exclusion sociale et l'éthique de la recherche. Et Bryn Williams-Jones, bioéthicien au département de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est la fin de cette édition spéciale des Années-Lumière réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Martin Vaillancourt et Marie-Claude Picard. Les journalistes Sophie-André Blondin, Gaëlle Lucia Berdou, Chantal Srivastava et notre stagiaire Fernand Seguin, Mathieu Gobeil. Journaliste au site internet Louis-André Bertrand. Des merci tout spéciaux au service de presse de l'ACFAS, Marie-Josée Gauvin et Fionia Collienne, et aussi aux gens de l'ACFAS, France Leblanc, Esther Gaudreau et Julie Dirouimer. Notre grande slameuse scientifique. Ne manquez pas, la semaine prochaine, une autre édition spéciale des Années-Lumière, spéciale biodiversité. On va souligner donc la journée mondiale, l'année internationale, avec une émission qui est faite avec nos collègues des radios francophones publiques, France Inter à Paris, la radio-télévision belge francophone à Liège, la radio-télévision suisse à Lausanne. C'est vraiment à ne pas manquer. C'est Yannick Villieu qui vous parle. Au revoir, bonne semaine.